Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vécu un petit épisode un peu particulier tout à l'heure en arrivant ici à Cube. Donc, je viens avec ma voiture, je monte Berry, je tourne sur Sainte-Catherine pour aller vers l'Est et je vois devant la station de Cube, sur Berry, une personne qui semble absolument, complètement intoxiquée. Une dame, pliée en deux. Je vois ça de ma voiture, mais je vois qu'il y a du monde qui s'arrête, qui regarde. Je me dis peut-être que c'est juste un petit malaise. Je stationne la voiture, je remarche vers Cube, la dame est encore dans la même position, une position où elle est littéralement pliée en deux, puis on va le voir dans le vidéo, dans le visuel, pliée en deux, la tête sur le trottoir, avec un sac qu'on apprendra par la suite qui était rempli de seringues. Et cette vidéo a été tournée à partir des bureaux de Cube, de l'intérieur, il y a une vitre qui sépare du trottoir. Devant ce triste spectacle, personnellement, mes collègues aussi ont craigné pour la sécurité de la dame si elle avait besoin de services ambulanciers notamment, mais pas uniquement, services policiers, juste s'assurer que sa santé ne soit pas mise en danger. On appelle le 911 à midi 29. C'est moi qui appelle le 911. Je communique avec eux, on me transfère à une ambulancier. J'explique la situation, je réponds à toutes les questions, on me dit « On arrive, on est en route. » 50 minutes plus tard. La madame, elle était rendue qu'elle était capable de marcher, puis est partie se coucher ailleurs, puis était couchée de l'autre côté de la rue. Là. Je suis allée jeter un coup d'œil pour m'assurer qu'elle était correcte, mais ça a pris 50 minutes pour une personne complètement intoxiqué, possiblement en situation de surdosage. Je ne le sais pas, je ne connais pas les symptômes de la surdose. Mais j'ai décrit que la personne semblait vraiment mal en point, incapable de se relever, incapable de parler. 50 minutes. Coin Berry et Sainte-Catherine. De deux choses l'une. Soit nos policiers et nos ambulanciers, ce qui est fort possible, étaient complètement débordés, et malheureusement, ça a pris du retard. Ou la deuxième option, c'est que les appels de personnes en situation d'itinérance qui sont en train de vivre un épisode de toxicomanie sévère sont tellement nombreux qu'on est devenu un petit peu indifférent à cette urgence-là. C'est que c'est tellement le quotidien de la police et des ambulanciers qu'aujourd'hui, il y a rien de nouveau, c'est les mêmes personnes qui viennent, qui déplacent, qui veulent pas monter avec eux et qui finissent par repartir. Mais qu'on en soit rendu à avoir une telle indifférence pour une situation qui potentiellement menace la vie d'une personne, c'est franchement triste, c'est franchement alarmant et tout ça en plein centre-ville de Montréal. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, t'es-tu dans l'autobus du oui ou du non? Parce qu'on va avoir un référendum sur l'immigration.
Écoute, je trouve ça désolant. Je trouve ça stupide, je vais le dire, carrément stupide. Parce que tu vois, imaginons donc la situation suivante. Il n'obtient pas ce qu'il veut à Ottawa et il y a une partie de ce qu'il veut qu'Ottawa ne lui donnera jamais et qu'aucun gouvernement souverain donnerait, c'est-à-dire le contrôle de ses frontières et des réfugiés.
Ben oui.
Donc, il n'obtient rien d'Ottawa, disons, ou pas suffisamment. Et là, il décide qu'il s'en va en référendum sur la question de l'immigration. Alors, imaginons un instant la formulation de la question avec l'ex-avec 1980 et 1995. Une question posée par des nationalistes, c'est un espèce de labyrinthe invraisemblable pour faire en sorte que les gens soient tout mêlés puis qu'ils votent pour eux. Bon.
Qui laisse faire.
Ouais. Mais la réalité qui a abondamment été étudiée, entre autres en Angleterre avec le référendum sur le Brexit, dans d'autres pays du monde où ils ont utilisé la méthode des référendas pour faire avancer ou reculer une cause, je ne sais trop. Quand tu poses une question d'une page, comme ils font d'habitude, ça n'a rien à voir avec le débat qui va se dérouler. Le débat va porter sur l'indépendance. C'était le cas en 80, c'était le cas en 95. Cette fois-ci, imaginons qu'il formule une question alambiquée, et c'est assez naturel chez M. Legault, imaginons qu'il nous fasse une question. Pour ce qui est des réfugiés, nous serions d'avis que... une page complète de conneries comme ça, puis le débat décolle. Là, on va devenir gêné.
Mais si la question est simple...
Là, on va devenir gêné. Si elle est simple, donne-moi un exemple d'une question simple.
Seriez-vous d'accord pour que Québec rapatrie l'ensemble des pouvoirs en immigration pour pouvoir déterminer les seuils, tant en matière d'immigration économique qu'humanitaire?
T'es déjà rendu à deux paragraphes.
Ben oui, mais regarde, j'ai essayé, là. Au moins, moi, j'ai essayé.
Mais
tout a commencé par « Nous sommes d'avis », tu sais. Drôle de question.
Alors, tu fais un référendum portant sur l'immigration, peu importe la formulation de la question, tu vas avoir un débat qui va faire honte au Québec, qui va faire parler de lui dans le monde entier, parce que, en deux temps, trois mouvements, n'oublions pas qu'à la fin des... c'était en 2015, 2016, après l'attentat de la mosquée de Québec, il y avait eu... Une tentative d'avoir un cimetière dans une banlieue un peu éloignée de Québec.
Ouais.
Ils ont fait un référendum, puis le monde a dit non pour un cimetière musulman. Et ça, c'est une toute petite chose dans un petit village. Imaginons qu'on dit aux gens, peu importe la question sur l'immigration, peux-tu juste penser au nombre de conneries et d'imbécilités qu'on va entendre? C'est incroyable. Et moi, par exemple, quand il y a eu le débat sur la loi 21, si on peut appeler ça un débat sous baillon, moi, j'avais clairement fait connaître mes couleurs. En fait, c'est mon métier que de faire connaître mes couleurs. J'étais contre ça. Je trouvais que c'était
une bizarre. Loi. Moi, je pensais que tu étais pour la loi 21.
Arrête là, je vais me fâcher si tu dis des affaires comme ça.
Une loi qui dit qui nous sommes comme peuple, Luc.
Voilà, de l'identitaire. Comment va ton identité aujourd'hui, toi, Yasmine?
Moyen.
C'est pas pire, hein?
Mieux qu'hier.
Ben là, le ramadan est fini, alors.
Ben, chaque jour qui avance, c'est une journée qui me rapproche le plus de mon identité québécoise.
Ah! Oh! Wow! J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Non, mais honnêtement...
Alors là, t'aurais, moi, pendant la loi 21, le débat, sur ma page Facebook, où j'ai à peu près 50 000 abonnés, 55 000, quelque chose comme ça, les réponses qu'on recevait, mais c'était d'un racisme. En fait, ça m'éclairait parce que j'avais jamais réalisé qu'une telle bassesse de racisme existait au Québec. Je savais qu'il y en avait.
Il y en a une
faux.
Petite minorité.
Petite minorité. Attention. Oui, OK. On s'entend sur une petite minorité. Disons 10%. 10%.
C'est quand même beaucoup de monde.
Ben, ça fait 500 000 personnes là, parmi les voteurs qui prennent les ondes, qui prennent tout ce que tu as comme moyen pour vomir sur les immigrants, pour tout mettre sur le dos des immigrants, pour se vider le cœur, pour en profiter, pour faire preuve d'islamophobie, de tout ce que tu peux imaginer comme forme de racisme. Il faut être un peu dingue quand t'es premier ministre du Québec, puis tu dis on va faire un référendum sur l'immigration. On sait que ça fait partie du folklore québécois.
Pardon? Ça fait voter!
Comment ça?
Ça fait voter le monde, parler de ça. Tu sais, François Legault, quand il a parlé de la loi 21, de la loi 96, il était où dans les sondages? Il y avait du monde qui disait enfin un premier ministre qui incarne l'identité.
Ah, ben c'est ça, je te dis.
Mais c'est payant, politiquement.
Ben, c'est pas... C'est payant. Attends que ça se termine. Attends que... Si jamais le débat a lieu, attends que ça se termine. Tu vas voir ce que ça donne politiquement. Il y a une chose que les Québécois qui sont racistes à peu près comme tous les peuples du monde le sont dans une certaine mesure. Mais il y a une chose, les Québécois, ça n'aime pas vraiment les bagarres.
Non, là, ça n'aime pas la chicane au Québec.
Ah bon, les gens n'aiment pas ça. Et quand ils vont se lancer dans ce débat-là, puis qu'ils vont voir ça se détériorer, ça va devenir de plus en plus gênant. Et ce qui pourrait être rentable politiquement va devenir un boulet pour le reste de ses jours. C'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est celle-là. Fais un référendum comme ça aux États-Unis, voilà. Fais un référendum comme ça en France. Il aurait pu y penser, hein, la France est dans ce débat-là depuis une 15-20 ans à peu près. Jamais il aurait été jusqu'à dire on veut un référendum parce qu'ils savent ce que ça va donner. C'est comme si on va libérer tout ce qu'il y a de raciste. On va leur donner, allez-y, exprimez-vous. Vous avez le droit à l'expression. Il n'y a plus de sujet tabou. On a le droit de parler d'immigration. On n'a pas le droit d'ouvrir une porte au racisme. C'est ça qu'on n'a pas le droit de faire. Et s'il doit y avoir des modifications aux politiques d'immigration, elles auront lieu dans un cadre à peu près normal et civilisé.
Législatif?
D'autant. Ouais, législatif, il n'y a pas grand-chose.
Des élections?
Non plus. Je veux dire, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement souverain sur Terre. Il inclut les fédérations comme l'Australie, comme l'Allemagne, comme la Suisse. Il n'y a personne qui va tenir un référendum de ce genre-là. Il y a toujours un fond de... Comment dire? De malice, de racisme qui dort dans les peuples. Et si on les réveille, on va en avoir pour notre cash. Ça serait tellement épouvantable que je me demande des fois si cet homme, premier ministre du Québec, n'est pas un irresponsable.
Moi, ce que je trouve particulier dans la conjoncture dans laquelle on vit, c'est qu'on a un premier ministre Trudeau qui s'amuse depuis deux semaines maintenant à aller dans les champs de compétences provinciales, aller dans les
ça
champs.
Ça intéresse
de...
personne, à part ça toi intéresse... et moi.
Je suis d'accord. François Legault, ça le dérange.
Ben oui, parce qu'il sait plus à quoi s'accrocher.
Mais il veut aller chercher les pouvoirs Ottawa.
D'abord, il a vidé le trésor, il l'a donné au syndicat. Ensuite de ça, c'est connerie par-dessus connerie par-dessus connerie et une connerie à temps pas l'autre. Écoute.
Écoute,
tu peux être sûr que Legault, là, s'il veut se réveiller un jour puis être dans misère, il a juste à déclencher un référendum sur l'immigration.
Ça risque d'être en effet quelque chose, un pari qui risque d'être très déchirant. Puis disons qu'au Québec, là, on a comme plus besoin d'être déchiré.
Et la réputation internationale du Québec dans ça? Imagine que les journalistes internationaux vont s'y intéresser parce que c'est un débat qui a cours un peu partout dans le monde, autant en Asie qu'en Afrique, qu'en Europe, partout. Imagine que les journalistes du monde entier vont avoir les yeux sur ça, ils vont s'installer ici au Québec et vont dire « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? As-tu vu ce que ces gens-là disent? »
Mais c'est François Legault qui s'est mis dans cette situation, tout seul.
Tout seul, absolument tout seul.
Il n'y a personne qui l'a poussé à aller là.
Non, puis l'entente qu'il y a avec le fédéral, qui est en place depuis le gouvernement de René Lévesque, on l'appelait l'entente Colin Couture, elle a été renouvelée et modifiée un peu.
Gagnant Tremblay.
Oui, voilà, alors on a une entente à l'heure actuelle qui est assez avantageuse pour le Québec et qui est unique au Canada.
Il n'y en a pas d'autres.
Alors, on ne peut pas se lever le matin et dire « Fais tout sauter! Nous autres, on pense que les immigrants sont en train de... » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement? Peu importe. C'est de la faute aux immigrants.
Ils existent.
Alors, voilà. ça résume bien l'affaire. C'est quoi le problème avec les immigrants, mesdames et messieurs? Yasmine vient de vous le dire. Ils existent.
Luc Lavoie, tu ménages, note. Bye, mon ami.
Salut.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On n'a visiblement pas assez de rues piétonnières à Montréal parce qu'on a décidé que la Plaza Saint-Hubert, le cœur de la Plaza Saint-Hubert dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, va être converti en un espace entièrement piéton pour la saison estivale pour une durée de 8 semaines. On en parle avec Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert. Bonjour, M. Parente.
Bonjour, Mme Abdel-Fadel.
Quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui justifient la piétonnisation de la place de Saint-Hubert?
Depuis nombreuses années, on a eu beaucoup de membres qui nous interpellaient à vouloir aller de l'avant avec une piétonnisation. Alors, pour répondre à cette question, mais pour s'assurer qu'on prenait la bonne décision, soit qu'on allait de l'avant ou non, on a décidé en automne 2022 de consulter nos membres. Fait qu'on a fait une série de consultations durant le jour, les soirs, pour aller chercher l'avis de nos membres. Et par la suite, nous avons fait un montage de différentes options.
Et ça ressemble à quoi, la réponse des membres?
J'y arrive. Une fois qu'on a fait cette présentation-là, on a mis ça à un vote à notre Assemblée générale, dont nous avons interpellé tous nos membres, comme la loi nous oblige de faire. Fait qu'une convocation est envoyée à tout le monde avec l'ordre du jour, et c'était bel et bien indiqué comme quoi on avait un vote sur le oui ou le non d'une piétonnisation. Et le vote était... le résultat du vote était d'à peu près 58% pour la piétonnisation.
58% avec un taux de participation qui est relativement faible, on peut se le dire. Est-ce que c'est assez pour aller de l'avant pour une piétonnisation d'une artère aussi importante, même d'un point de vue de transport, finalement, de particuliers?
Dans nos règles, les assemblées générales sont souveraines. Nous avons plus qu'atteint, d'ailleurs, c'était une des assemblées où on a eu une des plus grandes participations. La décision pour aller de l'avant était justifiée.
Donc, en fait, le vote, si je comprends bien, le vote est celui qui a déterminé cette décision-là, mais vous avez mené une consultation avant. Le fruit de cette consultation, oui. Est-ce que vous avez des chiffres à nous présenter sur le fruit de cette consultation? Ça ressemblait à quoi, les positions des commerçants?
Oh, il y avait une série de positions. Il y avait plusieurs questions. On avait embauché une firme pour nous accompagner dans cet exercice auquel les commerçants étaient libres à poser toutes questions, d'apporter leur opinion et leur position face à une piétonnisation ou non.
Est-ce que les citoyens qui habitent dans les rues là, parallèles ont été aussi consultés parce que, par la force des choses, le fait que les voitures ne pourront plus monter sur Saint-Hubert, ils vont devoir aller sur les rues qui sont parallèles. Est-ce que les citoyens de ces petites rues-là ont été consultés?
Notre rôle était, avant tout, de consulter nos membres. Notre rôle est de représenter les commerçants. On a fait qu'est-ce qu'on avait à faire, c'était de consulter nos commerçants, et par la suite, avec l'arrondissement, il y a eu des consultations, si on peut dire, auprès des commerçants pour voir qu'est-ce qui était les choses que les clients / résidents souhaitaient voir sur la rue, et des choses qui auraient souhaité s'assurer que ça ne devienne pas un irritant.
Monsieur Parente, permettez-moi de... Parce que je ne comprends pas nécessairement les motivations, puis je vous explique d'où vient mon scepticisme. Jusqu'à récemment, Saint-Hubert était perpétuellement en travaux, notamment pour élargir les trottoirs de part et d'autre. On dit qu'aujourd'hui, il y a 6 mètres de trottoir d'un côté, 6 mètres de trottoir de l'autre pour 6,5 là au maximum pour les voitures. C'est quoi qui justifie de prendre ce 6 mètres-là et de le rendre piétonnier quand il y a 12 mètres sur 18 qui sont déjà piétonniers?
C'est une très bonne question.
Ça m'arrive.
Je suis pas là pour débattre de la raison pourquoi les commerçants l'ont demandé.
Mais vous l'avez avancé, vous l'avez proposé. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose que là-dedans, vous avez entendu quelque chose, il y a un objectif derrière, parce qu'on ne ferme pas des rues juste pour fermer des rues. Est-ce que les trottoirs de la Plaza Saint-Hubert débordent tellement qu'il faut fermer la seule voie montant vers le nord de la région?
Bon, on n'est pas la seule voie montant de la région.
Mais la plus grosse des rues à côté. Puis vous m'avez dit que les citoyens n'ont pas nécessairement été consultés. Alors, c'est ça que je voulais comprendre. Est-ce que le débit est si important, l'achalandage est si important que la rue du milieu devait être fermée alors qu'il y a 12 mètres sur 18 mètres qui sont déjà piétonnisés?
Moi, je réponds à une volonté de mes membres et c'est la volonté que les membres ont souhaitée. À ce moment-là, ben, je dois travailler dans cette volonté-là.
Mais on peut pas juste fermer des rues parce que des personnes veulent fermer des rues, monsieur Parente. La rue Saint-Hubert n'appartient pas juste aux commerçants de Saint-Hubert, elle appartient à l'ensemble des Montréalais. Donc, je pense qu'un minimum d'explications pourrait être le bienvenu pour savoir qu'est-ce qui a pu justifier ça, qu'est-ce qui a pu expliquer ça, qu'on essaie de comprendre, on n'arrive pas à nous donner d'explications.
Pourriez-vous peut-être poser la question?
Il y a des taxis qui passent par là.
Mal votre question.
Pourquoi a-t-on besoin d'utiliser 6 mètres de route alors qu'il y a 12 mètres de trottoir déjà existants? Est-ce que le débit de personnes qui vont à la Plaza Saint-Hubert est si important qu'il faut fermer l'ensemble de la rue plutôt que d'utiliser les 12 mètres sur 18 mètres de la largeur de la rue?
Premièrement, c'était un choix des commerçants. Oui, ils souhaitent attirer encore plus de clientèle, faire connaître et garder captive la clientèle beaucoup plus longue sur la rue. La rue Saint-Hubert n'est pas la seule rue montante ou vers le nord. Il y a toujours Saint-Denis et Christophe Colomb aussi qui sont à proximité. S'il y avait un souhait à l'encontre des résidents, nous aurons eu aussi l'arrondissement avec qui on travaille de très près, où les résidents auraient pu s'exprimer auprès de l'arrondissement. Et si ça a été un aussi gros problème auprès des résidents, bien à ce moment-là, l'arrondissement aurait pris la décision de ne pas appuyer ce projet.
Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact de cette décision sur l'achalandage projeté? Est-ce que vous avez des études qui démontrent que la piétonnisation allait permettre ou allait attirer plus d'acheteurs? Parce que je vous parle de mon expérience personnelle, là, c'est pas scientifique, je parle juste de moi-même. Un endroit où j'arrive pas à stationner, ben j'y vais pas. Alors peut-être qu'il y a des données qui vont à l'encontre de cette perception-là.
Bien, on a des données. C'est sûr qu'on s'est basé sur plusieurs données que nous avons présentées à nos membres lors des prises de décision. Il y a des études qu'on mène constamment pour s'assurer que on est sur la bonne voie. Et jusqu'à date, notre pari, c'est que en effet, nous allons augmenter notre achalandage et non baisser l'achalandage.
Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces études-là?
On va espérer que vous allez venir nous visiter. Et on a quand même 500 places de stationnement.
Mais je suis allée la semaine dernière pour le lancement d'un livre à la librairie Raffin, là. La rue n'est pas encore fermée. J'ai eu bien de la misère à trouver du stationnement. J'ai fini par le trouver très loin et j'ai marché. Mais je vous ai demandé une question à propos de l'étude, puis j'aimerais juste savoir, est-ce que vous avez une donnée à nous faire connaître sur l'achalandage qui est supposé augmenter?
C'est un souhait, d'ailleurs, dans plusieurs de nos études, que les clients veulent la rue, beaucoup plus de place sur la rue. C'est un souhait par la clientèle aussi d'avoir beaucoup plus accès et être beaucoup plus libre de se promener sur la rue comme qu'ils le souhaitent. J'ai pas toutes les études et les chiffres devant moi. Je m'attendais pas qu'on aurait embarqué dans cette discussion-là. Ceci étant dit, au niveau des stationnements, on a quand même 500 places de stationnement hors rue, en terrain hors rue, qui sont très accessibles et très à proximité de la place de Saint-Hubert. C'est juste une rue à l'est. sur le
J'espère qu'on s'attend à avoir plus que 500 clients à la Place de Saint-Hubert quand on va la piétoniser. Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial à la Place de Saint-Hubert. Bonne chance cet été. J'espère que vous allez connaître le succès escompté.
Merci beaucoup et merci de votre temps.
Pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
On va parler du troisième lien. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est toujours opposé au projet de troisième lien. Mais ce n'est peut-être plus aussi clair aujourd'hui. Écoutons-le ensemble.
Pour l'instant, la position en vigueur, c'est celle de 2022. Puis on avait bien fait notre travail, je crois. Mais en prévision de 2026, la variable qui me manque, c'est qu'est-ce que toute cette histoire de renvoi à la caisse de dépôt, de procrastination, d'études qu'on met à la poubelle à coût de 100 millions, dépensés pour rien, où serons-nous rendus? Est-ce qu'il y aura des engagements fermes ou des choses déjà débutées par le gouvernement?
Bon, et pour que ce soit plus clair, Yasmine, dans une publication aujourd'hui sur X, il a dit « Nous ne voulons pas d'un lien autoritaire du OPQ, en fait, mais nous ne contrôlons pas l'agenda de la Caisse de dépôt et de placement pour les deux prochaines années. » Alors, quelle interprétation en fais-tu?
Moi, j'ai l'impression qu'on a trop mélangé de choses au PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon sur cette question-là. L'idée ici, c'est de savoir, le Parti québécois, là, lui, aujourd'hui, est-ce qu'il est pour ou contre le troisième lien? Est-ce qu'il est pour ou contre un lien autoroutier entre Québec et Lévis? C'est ça, la question. Là, il faut pas s'enfarger à écrire une nouvelle question référendaire. Là, on n'a pas besoin d'une loi sur la clarté de la question. Ouais. Là, t'sais, c'est juste ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre un troisième lien? Là, maintenant, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Ah, ben je suis toujours contre, mais ça se peut que je devienne pour. Puis ça se peut que je devienne pour dans 2 ans parce que j'attends le rapport de la CDPQ, puis peut-être qu'ils vont déjà avoir commencé des travaux. Puis si je suis élu, je veux pas arrêter les travaux. » Mais c'est pas ça la question. Moi, j'ai l'impression que M. Saint-Pierre Plamondon essaie de plaire à tout le monde, de sauver la chèvre et le chou, d'épargner tout le monde, de ne pas se faire d'ennemis dans la région de Québec. Il trône dans les sondages. Mais son secret, sa recette, son succès, il le doit au fait qu'il s'est toujours assumé ses positions, même lorsqu'elles étaient impopulaires. D'ailleurs, alors qu'il disait qu'il était contre le troisième lien, ça ne l'a pas empêché à être premier dans les intentions de vote dans la région de Québec. Parce que le monde veut quelqu'un qui les regarde dans les yeux puis qui leur dise la vérité et qui leur donne l'heure juste. Pas quelqu'un qui les prend pour des valises pour changer d'idée après. Et c'est ça qui fait le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, ses explications alambiquées un peu compliqué, suivi par un tweet, là. C'est disons contre nature pour Paul Saint-Pierre Plamondon, pour le PQ, et ça pourrait être la première erreur stratégique de Paul Saint-Pierre Plamondon des dernières semaines.
Oui, il faut dire qu'il a énormément de visibilité médiatique, donc il y a énormément de questions qui lui sont posées actuellement. Il est premier partout dans les sondages, autant comme chef que son parti.
Et il faut qu'il s'attende et qu'il s'habitue à être aussi sous le pluie de ces interrogations, des questions qui peuvent des fois déranger, qui peuvent des fois être insistantes. Oui, c'est vrai, mais c'est le prix à payer lorsqu'on est premier dans les sondages. Lorsqu'on arrive premier dans les intentions de vote, on a une énorme cible sur soi qui devient, et tout le monde tire dessus. Il y a évidemment le gouvernement qui va vouloir mettre le parti devant ses contradictions, les autres oppositions, les médias qui veulent savoir qu'est-ce que le chef pense de tous les sujets d'actualité. C'est normal et il faut se plier à cet exercice-là. Là. C'est pas le moment de montrer qu'on est agacé. C'est le moment de profiter de cette visibilité-là pour pouvoir lancer des messages et pouvoir finalement cristalliser ses intentions de vote pour qu'elles puissent être encore plus solides le jour où le vote va devoir se matérialiser.
Yasmine, nous attendons la comparution du premier ministre Justin Trudeau devant cette commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir obtenir réponse à nos questions pendant qu'on voit le ministre Dominique Leblanc là, qui est contre-interrogé?
J'espère qu'on va avoir des réponses à nos questions parce qu'il y a plusieurs préoccupations là depuis d'ailleurs hier. On a commencé à avoir Katie Telford qui est la chef de cabinet du premier ministre Trudeau qui est partie comparaître. Il y a tout un flou autour de la candidature de Han Dong, qui est finalement un député, qui est aujourd'hui un député indépendant, mais qui était un député libéral. Et lors de la campagne électorale, nos services secrets ont dit au cabinet de M. Trudeau qu'il y avait des inquiétudes quant à l'ingérence de la Chine à travers Han Dong. Bon, Katie Telford hier nous disait, on n'a pas senti le besoin d'intervenir, on n'était pas au courant. Bref, toutes sortes d'excuses pour dire qu'il n'y a pas eu d'intervention. Maintenant que ça c'est fait, Han Dong a été élu. Moi, ce que j'aimerais, la réponse à laquelle j'aimerais qu'on réponde, notamment de la part de Justin Trudeau, une fois qu'il a été élu, M. Trudeau savait que Han Dong siégeait dans son caucus, savait qu'il y avait une potentielle cheval de Troie dans son caucus, une potentielle taupe dans son caucus. Quelles sont les vérifications, quelles sont les vérifications qu'il a fait et quelles sont les mesures qu'il a prises pour s'assurer que les informations qui circulent ne se retrouvent pas en Chine, à Pékin? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Si la réponse est négative, là, on a un gros problème puis de grosses inquiétudes.
À suivre donc ce témoignage qui devrait débuter après celui du ministre Dominique Leblanc au cours de la prochaine demi-heure. Merci, Yasmine.
On va retrouver tout de suite Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, pour parler d'une information qui vient de sortir et qui est hyper intéressante. Bonjour, Nicolas, ça va bien?
Bonjour, très bien vous-même.
Ça va bien, merci. On apprend que le premier ministre Justin Trudeau et sa délégation auraient dépensé près de 200 000 $ d'argent de contribuables en nourriture d'avion pendant la tournée Indo-Pacifique à l'automne dernier. Ça, c'est de l'information que vous, la Fédération canadienne des contribuables, avez réussi à sortir. 190 000 piastres de bouffe pour une semaine de temps. Qu'est-ce qu'on mange pour 190 000 piastres?
On sait malheureusement pas encore parce que le gouvernement n'a pas encore répondu à toutes nos demandes d'accès à l'information, mais effectivement, c'est un montant qu'on pourrait qualifier de record. La Fédération canadienne des contribuables, comme vous le savez, on aime bien envoyer des demandes d'accès à l'information pour avoir des détails sur comment l'argent des contribuables peut être utilisé. Et on a fouillé un peu à savoir comment l'argent des contribuables, justement, avait été dépensé par M. Trudeau et sa délégation quand ils se sont rendus entre le 5 et le 10 septembre dernier en région Indo-Pacifique pour justement faire une tournée, une sorte de mission économique où est-ce qu'on allait, entre autres, à Singapour, en Indonésie. On allait même assister au G20 en Inde. Et donc, on s'intéressait aux différentes dépenses, que ce soit pour les hôtels ou les avions, etc. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu pas loin de 190 000 $ de dépenses qui, effectivement, étaient pour de la nourriture d'avion. Faut savoir que cette délégation, au total, a eu un maximum de 54 participants sur le vol auquel M. Trudeau participait. Donc, on a réussi à dépenser en un peu moins de 6 jours 190 000 $. C'est assez phénoménal, surtout quand on sait que c'est arrivé quand même en 2023. On voyait les banques alimentaires au Canada exploser. On voyait les files être de plus en plus nombreuses, des gens faire des sacrifices sur leur alimentation. Mais d'un autre côté, on avait un premier ministre qui avait aucun problème à dépenser dans les 6 chiffres pour de la nourriture d'avion. Donc, c'est effectivement scandaleux, mais on a très hâte de savoir effectivement ce qui a été consommé.
54 participants, ça, c'est incluant le personnel qui accompagne le premier ministre ou est-ce que c'est juste les membres de la délégation qui se rajoutent au personnel politique qui accompagne le premier ministre et la sécurité?
C'était vraiment toute la délégation complète. Donc, quand on parle de 54 personnes environ, donc ça inclut autant la délégation de Monsieur le Premier ministre ainsi que son entourage, ainsi que des visiteurs et d'autres délégués qui venaient le rencontrer ou qui participaient à ces différents déplacements. Parce qu'effectivement, il n'y a pas juste la délégation de Monsieur Trudeau qui ont profité de ces repas assez frugales. Il y a eu aussi d'autres invités dont on n'a pas encore les détails. On ne sait pas qui a mangé quoi. On ne sait pas ce qui a été nécessairement consommé, s'il y a des décorations ou autres. On se souvient qu'on a fait des demandes d'accès à l'information il y a environ 2 ans pour justement obtenir des informations similaires. La gouverneure générale, Mary Simon, avait dépensé pour 100 000 $ en repas d'avion pendant une semaine avec sa délégation. C'est à peu près le même type de situation devant laquelle on se retrouve, mais cette fois-ci, c'est effectivement M. Trudeau qui est dans l'eau chaude et on a hâte de voir s'il va nous livrer des informations supplémentaires sur cette situation-là.
Mais soyons honnêtes, puis soyons juste là. Évidemment, c'est scandaleux, 190 000 pour quelques jours de voyage d'une mission, mais c'est pas le premier ministre ni son cabinet qui prennent ces décisions-là de ce qu'ils vont manger, puis qu'est-ce qu'ils vont manger, puis quel est l'ingrédient, puis c'est quoi les repas. On s'entend que c'est la GRC notamment, ou les Forces armées canadiennes, bref, le protocole qui détermine ça. Et c'est pas comme si Justin Trudeau fait passer des commandes puis leur disait « Ouais, moi, je veux le repas le plus cher, là. »
Vous avez raison sur ce point-là. Par contre, un élément qui est assez important aussi à prendre en considération, c'est que d'une part, après le scandale de Mme Simon et ses dépenses pour les repas d'avion, il y a eu un comité parlementaire qui s'est penché sur le dossier et qui ont décidé d'emmener des modifications justement à travers les protocoles, dans le fond, le responsable du protocole du Canada, M. Steve Wheeler, à l'époque, pour s'assurer qu'il y ait moins de dépenses et qu'il y ait un meilleur contrôle sur les dépenses à l'étranger à des différentes délégations. Et en plus, quelques mois à peine avant le dépôt du de la mise à jour économique fédérale d'automne 2023, la ministre Annan ainsi que Mme Freeland s'étaient tous les deux engagés à réduire certaines dépenses pour être en mesure de démontrer qu'on est capable de faire des économies à partir justement de réductions pour les dépenses de déplacement ou les différents portefeuilles des hauts fonctionnaires. Bref, à plusieurs moments, on a démontré qu'on voulait faire ce type de modification-là, qu'on voulait éviter que ce genre d'abus ait lieu à nouveau. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on disait ça d'un côté de la bouche, mais de l'autre côté, on n'avait aucun problème à dépenser de l'argent des contribuables sans compter. Et ça, surtout quand c'est à l'international, faut se dire que ça commence à donner une sorte de tradition assez navrante parce que on se rend compte que ce genre de scandale-là, on le retrouve à plusieurs niveaux. Niveau de paliers gouvernementaux. On l'a vu avec l'OCPM à Montréal, on l'a vu avec les différentes participations à la COP pour le gouvernement du Québec à l'international, puis là on le voit avec le premier ministre et sa délégation. Donc clairement que quand on est loin des caméras, loin des contribuables, on n'a pas de problème à dépenser leur argent.
Ça c'était juste en nourriture, le 190 000, on parle de près de 2 millions de dollars pour l'ensemble des coûts reliés à cette délégation.
Exactement. Donc, on a quand même plusieurs, au-dessus de 600 000 $ entre autres pour la sécurité, pour les accompagnements, ou plus de 400 000 $ aussi pour tout ce qui concerne, par exemple, les déplacements en avion, l'essence, etc. Donc, il y a des coûts assez importants, c'est sûr. Mais quand on considère que 10 % de la facture, c'était que des repas d'avion, ça ne prend pas en considération tous les repas qui ont pu être consommés durant le voyage. Donc, il faut dire que cette facture-là est appelée à augmenter puisque plusieurs informations, plusieurs dépenses n'ont pas encore été comptabilisées. Et ça démontre encore une fois un manquement de la part du gouvernement fédéral en ce qui a trait à sa propre transparence. Ces informations-là auraient dû être divulguées publiquement. Ça devrait être accessible à tout moment. C'est pas normal, encore une fois, que c'est nous qui devions faire des demandes d'accès à l'information pour démontrer que le gouvernement ne montre aucune retenue avec l'argent des contribuables quand c'est le temps de se déplacer à l'étranger. Pardon.
Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir. On retrouve Jordan Chénard, notre spécialiste de communication marketing. Bonjour, Jordan.
Ah ben, rebonjour.
Rebonjour. On parlait des influenceurs virtuels, ces avatars numériques qui finalement jouent le rôle des influenceurs en chair et en os. Mais eux, ils n'ont pas vraiment de réputation à défendre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier à des avatars pour se laisser tenter?
Ben, je te dirais, c'est là où je sais pas où est-ce que ça a coupé tantôt parce que ça a coupé au moment où tu avais l'air très attentif, ce qui fait que je pensais vraiment que je te parlais encore. Mais en gros, oui, en fait, la vraie question à se poser là-dessus, c'est est-ce que les gens sont au rendez-vous? On s'entend du point de vue marketing et de la communication, peu importe ce qu'il y en est ou sur l'efficacité ou du moins comment qu'on peut travailler avec ces avatars-là, est-ce qu'on réussit à rejoindre un public en question? Et je te dirais que c'est étonnant, mais oui, ça fonctionne bien pour le moment, mais on n'est pas trop loin. C'est là où il faut pas non plus se laisser berner par le côté impressionnant. C'est vraiment ils ont l'air très, très réalistes, très, très réels, ces influenceurs-là, ces influenceuses-là.
C'est des avatars qui ressemblent à des personnes ou est-ce que c'est comme des petits bonhommes?
Exactement. Non, c'est vraiment des influenceuses et influenceurs, surtout influenceuses. On va dire comme ça, je vais féminiser le terme ces temps-ci parce que c'est beaucoup plus de ce côté-là, là, du point de vue des produits de beauté, de sport féminin. Donc, oui, elles ont l'air extrêmement réalistes. C'est littéralement du deepfake, mais annoncé, c'est-à-dire que c'est pas caché là, il y a toujours un hashtag, une espèce de mot-clé qui indique intelligence artificielle ou avatar. Bref, c'est toujours indiqué que c'est pas une vraie personne, mais c'est à s'y méprendre. Et en plus, ben ils vont nourrir ces réseaux sociaux là avec des photos où ce que la personne, l'avatar n'apparaît pas nécessairement, mais on va voir une main, un pied, ou on va avoir l'impression que c'est une vraie vie, mais au final, c'est beaucoup plus une mise en scène. Et ce que ça repense en fait un peu notre relation avec ces marques-là, c'est-à-dire que avant on suivait les influenceurs pour ce qui nous racontait la connexion humaine qu'on pouvait avoir avec ces gens-là, et à travers ça les marques pouvaient passer leurs annonces et l'influenceur pouvait continuer de faire ce travail-là en étant payé. Là, cette approche-là beaucoup plus mercantile, beaucoup plus style panneau publicitaire, ben ça fonctionne aussi quand le contrat avec le consommateur est clair et il y a beaucoup de jeunes à qui ça parle. Et c'est là où j'aime beaucoup voir les réactions des gens quand je parle de ça. J'ai des proches, des amis qui me posent la question. Ouais, mais je dis pourquoi que les gens regarderaient ça? Je dis, on me donnait un exemple. Il dit, ouais, mais par exemple, tu vas annoncer un produit de beauté pour les cheveux. Je dis, c'est pas ses vrais cheveux, c'est pas une vraie personne.
Ben, c'est ça.
Et je réponds toujours par la même question. C'est oui, mais quelle pub d'annonce, quelle pub pour des shampoings et des produits pour les cheveux que tu as vraiment traité comme quoi que c'était le résultat que tu allais avoir.
Mais notre je suis pas d'accord avec toi, Jordan. Là, je vais faire ma dissidente, puis je vais faire mon avocat.
Ben oui.
Mais quand tu regardes des influenceurs sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, puis là, elle te montre ses cheveux qui sont tous brisés, puis là, elle va prendre son shampoing, puis elle va faire un produit avec ça, puis là, elle va le faire en live devant toi, le sécher. C'est quand même une expérience différente qu'un avatar qui n'existe pas vraiment, qui dit « je vais aller prendre une douche » alors qu'il n'existe même pas, là.
Oui, ben il y a ça, mais c'est lorsque on peut pas comparer la relation avec l'avatar avec la relation de l'influenceur ou l'influenceuse. C'est-à-dire que c'est vraiment traité comme une publicité ambulante, si je peux dire, comme par exemple que je me rappelle très très loin dans ma jeunesse, ça fait longtemps que j'ai vu des pubs de shampoing, mais je me souviens de Pantene Pro V, on disait des cheveux d'apparence saine, puis tu le voyais qu'il y avait au moins une job de 15 personnes pour chaque couette sur cette personne-là. Tu savais que le shampoing allait pas faire ça avec une petite bouteille à 5$, mais le contrat avec la publicité et le public, c'est de dire on te vend, on aspire à ce que tu aspires à ce que le produit fasse ça, mais en bout de ligne, c'est pas, tu t'attends pas à un travail de salon et de d'avoir un gros service de cheveux extrêmement performant.
C'est tu pas sais que c'est un shampoing que t'achètes quand t'achètes un shampoing en pharmacie, là, on va tout
exactement. Exactement. Ben, c'est là où c'est un peu ce que je réalise quand on voit, c'est plus les jeunes, évidemment, qui sont interpellés par ça. Et c'est la relation qu'ils ont avec ces influenceurs-là. C'est moins une connexion humaine que littéralement un panneau publicitaire qui va leur mettre dans le contexte le produit en question. Ils savent que c'est pas nécessairement une vraie personne. Ils savent que ça aura pas nécessairement l'air de ça. Mais ils voient de façon un peu plus réaliste. Et c'est ce que les marques aiment là-dedans, c'est qu'ils s'achètent de l'espace publicitaire dans les fils sans avoir à payer de la pub. On s'entend, c'est pas une publicité en tant que telle. Tu suis un compte qui va diffuser du contenu ici et là, mais en bout de ligne, tu connectes quand même avec la marque. Donc, ils aiment bien ça. Et c'est facile aussi à gérer. À partir du moment que ton influenceur virtuel a une personnalité et une identité propre, ben après ça, c'est stable. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter s'il va avoir un scandale. Si, comme on le voit ces temps-ci, il y a beaucoup de YouTubers, de représentants, d'influenceurs et influenceuses qui font des burn-out. C'est extrêmement difficile de faire ça. Les algorithmes sont très, très demandants. Moindrement que tu manques une publication, l'algorithme te punit et tu te retrouves très, très loin dans le classement. Donc, toute cette espèce de façon de nourrir la machine, ben on arrive vraiment à un moment où ça devient plus avantageux qu'une machine s'occupe de nourrir la machine de l'influence. Donc, on devrait probablement avoir de plus en plus, mais selon moi, ça va être dans un contexte un petit peu comme les personnages logo. Donc, on se souvient du tigre pour les céréales, là, j'ai oublié le nom, ou les oursons là, pour le beurre de peanut Kraft. Donc, il va y avoir un contexte de représentant de marque, mais je ne pense pas que ça va finir par remplacer. Là, il y a une manne de ça qui donne l'impression que ça va remplacer les influenceurs. Je pense surtout que c'est l'inverse, ça va remplacer Frosted les personnages logo. Merci, les Frosted Flakes. Et c'est ça, c'est que ça va devenir des représentants de marque qui vont pouvoir être, oui, sensiblement réalistes, mais stables dans le temps et on va pouvoir contrôler leur image, mais toujours dans se donnant un contexte hyper réaliste, style deepfake. Donc, ça va se placer. C'est sûr qu'actuellement, vous allez avoir l'impression que ça veut prendre le dessus sur les humains, mais au final, ça va, à mon avis, on va se retrouver vraiment avec quelque chose qui va être très, très niché avec quelques marques qui vont pouvoir gagner, oui, à utiliser cette espèce de représentation très, très humaine. Mais il y a aussi certaines représentations qui sont exagérées, des animaux animés et tout ça. Et là, on retrouve vraiment des influenceurs virtuels, mais dans un contexte beaucoup plus dessin animé, beaucoup plus clair que c'est un personnage logo. Mais là, présentement, il y en a qui sont extrêmement réalistes. Et je pense à une, entre autres, si vous voulez aller la voir, elle s'appelle Fit_Aitana. Et c'est à s'y méprendre. Là. On penserait vraiment que c'est une vraie personne.
Sur un autre ordre d'idée, les liseuses électroniques, là, les e-readers, vont prendre la couleur. C'est vrai que ça a l'air d'être une pièce électronique faite dans le début des années 2000. Là. Ça ressemble au Nokia à ma mère là, quand les cellulaires sont sortis. Là, enfin, ils ont découvert la couleur. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ben, c'est quelque chose qui passe souvent sous le radar parce que c'est difficile à vendre pour le commun des mortels, si je peux dire. Là, quelqu'un qui lit beaucoup va comprendre l'intérêt d'une liseuse électronique. Moi, personnellement, je lis beaucoup d'articles et lire avec du rétroéclairage ou sur un écran, je trouve ça fatigant. J'envoie beaucoup d'articles à mon Kindle là, de Amazon. Et pour ceux qui n'ont pas expérimenté ça, là, le e-ink, c'est vraiment le nom officiel, c'est la marque, mais l'encre électronique, c'est vraiment comme de l'encre. C'est-à-dire qu'il y a un courant électrique qui passe et va afficher une page de texte ou une image à la même résolution que dans un magazine ou dans un livre. Et en fait, c'est beaucoup plus facile à lire et visuellement, c'est vraiment l'expérience d'une page et non pas d'un écran. On voit pas de pixels, il n'y a pas de rétroéclairage. Donc, pour la lecture, c'est le fun. Par contre, c'est une technologie que c'est très, très difficile d'y intégrer de la couleur. Ça a été long. Il y a des expérimentations qui se font. Les laboratoires arrivent à en faire, mais de là à ce que ça puisse se rendre au public, ça a été long. Et là, Kobo vient de sortir deux nouveaux modèles qui vont intégrer ça. Là, on s'entend, c'est comme, je me souviens des premiers écrans là, à l'époque des vieux ordinateurs, il y avait comme 16 couleurs, après ça, il y en a eu 256 couleurs. Là, on se retrouve avec des couleurs un peu fades, c'est-à-dire des couleurs pastels, mais il y a une grande gamme de couleurs quand même, ce qui fait que l'image est quand même très belle. Et c'est les premiers pas. Je crois que d'autant plus que le débat qu'on a aujourd'hui, là, c'est-à-dire autour des écrans, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Ben, les liseuses électroniques, c'est les choses qui ont passé un peu sous le radar, qui, je pense, vont reprendre du galon et vont reprendre leur lettre de noblesse parce que ça remplace vraiment un livre. Et ceux qui sont sceptiques, une fois que je leur passe mon Kindle entre les mains, ils réalisent. C'est vraiment fascinant de voir à quel point que on a vraiment l'impression, c'est comme si une page était vivante. Quand on clique dessus, le texte disparaît et il y a un autre qui apparaît et c'est comme si tu avais une nouvelle page de lecture. Donc, beaucoup plus plaisant à lire et c'est plus contraignant. Il n'y a pas ton Facebook, il n'y a pas ton Instagram là-dessus. Donc, quand tu t'installes sur ta liseuse, tu seras pas distrait. Tu t'installes pour lire, mais tu peux lire une pelletée de choses. Tu peux lire des articles, tu peux lire des journaux. Donc, je pense que il manquait surtout la couleur pour que les gens s'y intéressent et Kobo vient d'ouvrir le bal. J'ai bien hâte de voir ce que Amazon et les autres compétiteurs vont faire parce que là, je pense qu'on va s'intéresser à cette technologie-là pour décrocher un peu puis retrouver le plaisir d'avoir du texte et quelque chose de figé vraiment et visuellement intéressant sans que ça nous brûle les yeux avec la fameuse lumière bleue.
À suivre, on va surveiller ce que Amazon va faire. Jordan Chénard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt.
Merci, à bientôt.
C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.